Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Eric et moi-même Patrick en partenariat avec l'Observatoire Astronomique d'Agnan. Bonjour Eric.
Bonjour Patrick.
Bon, aujourd'hui on va parler du télescope spatial Hubble.
Oui.
Parce que
Eh bien, parce qu'aujourd'hui, alors dans quelques jours exactement, le 25 avril, on fêtera les 35 ans de service du télescope spatial Hubble.
Donc ça fait 35 ans qu'il tourne autour de la Terre en orbite et qui nous envoie donc de superbes images. J'imagine qu'il ne fait pas que envoyer des images hein, pour plaire au public.
Ouais, il ne fait pas que plaire au public, mais enfin c'est quand même grâce à lui que l'astronomie de ciel profond a été un petit peu démocratisée, parce qu'avec les magnifiques images dont on se souvient tous, hein,
oui,
les têtes de cheval, les fameux piliers de la création, etc. Non, il fait avant tout de la science, de l'astronomie, bien sûr, de l'astrophysique, de la cosmologie, etc. Donc c'est un instrument qui, au départ, était prévu pour vivre 20 ans, mais ça fait 35 ans qu'il continue, encore aujourd'hui, à faire de la science.
Et il peut continuer un petit peu longtemps encore? C'est une question de budget, j'imagine?
Ah ben oui, sachant que depuis 2009, maintenant, il n'est plus entretenu, puisqu'on n'a plus de navette spatiale pour aller
Il les voit lui-même, oui.
Et donc, ma foi, après, tout va dépendre de ses conditions d'alimentation et de fonctionnement de ses moteurs.
Donc, il le laisse finir tranquillement.
Oui, alors un certain nombre de choses peuvent être faites à distance,
oui.
En informatique. Maintenant, toutes les pièces mécaniques, notamment les moteurs, c'est gyroscope pour la visée. S'ils tombent en panne, malheureusement, ça sera terminé.
D'accord, ok. Bon, on voit avec la sonde voyageur qui finalement donne toujours des signes.
Tout à fait.
Donc, voilà, il y a encore peut-être de belles années devant lui. Bon, alors, ce télescope spatial, il s'appelle Hubble, donc en l'honneur de Monsieur Hubble.
Oui, de Edwin Hubble, mais alors, on n'a pas dès le départ appelé Hubble. Ça a été relativement tard, puisqu'il a fallu d'abord le concevoir, déjà lancer le programme, convaincre déjà le public et notamment les financiers. Les politiques, c'est-à-dire qu'il était utile d'envoyer un télescope dans l'espace. Mais ça remonte à bien, bien avant qu'on pense à notre télescope Hubble, puisque ça a commencé en 1923. Oui. 1923, déjà, un physicien austro-hongrois, Hermann Oberth, a publié un livre sur les voyages interplanétaires en fusée. Et dans ce livre, il imaginait bien la fusée pour transporter et mettre un télescope dans l'espace, parce que c'était quand même bien plus pratique.
Alors, on peut se poser la question, l'avantage de mettre un télescope dans l'espace, parce que c'est quand même compliqué.
Alors, entre 1923 et 1946, l'idée a fait son chemin dans la tête des astronomes et des scientifiques, et c'est un astrophysicien américain, Lyman Spitzer, qui a remis un petit peu au goût du jour cette idée en expliquant que un télescope dans l'espace permettrait de s'affranchir de tous les inconvénients de l'atmosphère terrestre, puisque l'atmosphère terrestre va brouiller les images un petit peu, et en plus, c'est d'autant plus vrai maintenant dans les temps modernes, mais ça commençait déjà dans les années 1950, c'est les histoires de pollution et pollution lumineuse notamment. Et donc ça, dans l'espace, la pollution lumineuse, elle est quasiment inexistante.
Donc, si on se protège du soleil, on est dans le noir.
Un autre avantage non négligeable également, c'était la possibilité d'observer dans certaines longueurs d'onde de la lumière, puisque l'atmosphère terrestre a cette particularité d'absorber un certain nombre de longueurs d'onde, notamment l'ultraviolet et l'infrarouge.
Donc c'est un énorme filtre, on va dire.
Voilà. Et donc, placer un télescope là-haut, ça permettait d'avoir des qualités d'image nettement supérieures.
Très bien. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu de notre ami Hubble?
Oui, puisque dans les années 80, le Congrès américain et la NASA ont décidé d'appeler ce, à l'époque, Large Space Telescope, Edwin Hubble.
Ok, alors, Edwin Hubble est américain, enfin, était américain, évidemment, né dans le Missouri en 1880. 89, il étudie les mathématiques et l'astronomie à l'Université de Chicago, où il obtient son diplôme en 1910. Il s'oriente vers les étoiles et l'univers à l'Observatoire Yerkes, où il obtient son doctorat en 1917. Ensuite, George Hale, le fondateur et directeur de l'Observatoire du Mont Wilson en Californie, que tu connais bien, lui propose un poste de chercheur en 1917. Bon, malheureusement, la guerre éclate en Europe, il est mobilisé. Ça se passe bien, on va dire, pour lui. Et dès son retour, l'offre de Hale tient toujours et il s'installe à Pasadena et y poursuit ses travaux jusqu'à la fin de sa vie. Alors, petit truc, j'y passe vite fait, mais peu de temps avant sa mort, il fut le premier à utiliser le télescope Hale, composé d'un réflecteur de 200 pouces. Alors, 200 pouces, c'est quand même 5 mètres de diamètre qui venait d'être achevé. Et voilà. Il meurt après, en 1953.
Et à l'époque, c'était le plus grand télescope au monde.
Oui, pour donner en titre de comparaison, je crois que le plus gros miroir actuellement, alors d'une seule pièce, je crois qu'il fait un peu plus de 8 mètres.
Oui.
Et en fragmenté, on est à 10 mètres et quelques. Donc 5 mètres, c'était, j'imagine que c'était d'une seule pièce à cette époque-là.
C'était d'une seule pièce, c'était un miroir en verre.
Oui, qui devait peser.
Qui a effectivement connu pas mal de petits déboires à la construction, mais ça peut être une autre histoire.
Alors, qu'est-ce qu'il a laissé en fait, M. Hubble, en astronomie? C'est la loi de Hubble, dit Hubble le maître, qui dit que les galaxies, en fait, s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Donc, autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement. En fait, c'est l'expansion de l'univers.
Il a mis en évidence l'expansion de l'univers et il a surtout, avant ça, mis en évidence que les objets que l'on appelait des nébuleuses à l'époque, notamment découvertes par Messier et ses confrères, en fait, ce n'étaient pas forcément des nébuleuses, mais c'était bien des galaxies qui étaient indépendantes de la nôtre, puisqu'à l'époque, on pensait que tous les objets qui étaient observés appartenaient à notre galaxie. Et lui a démontré que ce n'était pas le cas.
C'est fou parce que ça, c'est un siècle, quoi, en gros.
Très récent.
Il y a un siècle, on ne savait pas encore que, finalement, on s'en doutait peut-être, mais on n'était pas sûr qu'il y avait d'autres galaxies ou si tout était dans notre univers, il à nous.
Tout à fait,
c'est impressionnant.
Tout était aussi lié à la qualité et à la puissance des appareils d'observation dont on disposait.
Tout à fait, d'accord. Alors, il a pu quand même réaliser ses mesures, puisque c'est lui qui, apparemment, a réussi à déterminer la distance de notre voisine spirale, la grande galaxie d'Andromède. Oui. M31, grâce à des étoiles particulières.
Et oui, ce qu'on appelle les céphéides.
Les fameuses céphéides, qu'on appelle aussi des étoiles variables, alors variables particulières. Et alors on doit cette découverte à une astronome, Henrietta Leavitt, qui au début du XXe siècle, avec les plaques d'observation photographique, a mis en évidence certaines étoiles qui avaient tendance à pulser, donc à avoir des périodes de luminosité qui changeaient, mais ce n'était pas aléatoire. Apparemment. Donc, l'observation de ces périodes pouvait déterminer donc la luminosité de ces étoiles. Et du coup, ça servait de jalon. Ça a permis de se dire, ah ben tiens, ces étoiles sont fiables. Il suffit de calculer, de compter leur période. Alors, ça va de 1 jour, je crois, à 135 jours.
Oui.
Et plus la période est longue, plus l'étoile est brillante.
Voilà.
Donc ça permet vraiment, on compte la période et du coup on connaît la luminosité intrinsèque, donc propre à l'étoile. C'est très pratique.
Voilà.
Et du coup, comme une ampoule de 100 watts, si vous connaissez sa puissance, si elle baisse de luminosité, c'est qu'elle est à une certaine distance.
Voilà. Et c'est comme ça que Hubble a déterminé que la galaxie d'Andromède n'appartenait pas à la Voie lactée.
Et oui, puisqu'elle se trouvait finalement à en gros 2,5 millions d'années-lumière.
Voilà.
Et connaissant la taille de notre galaxie, 100 000 années-lumière, obligatoirement, c'était en dehors. Donc c'est quand même une très grande avancée.
Tout à fait.
Bon, d'accord. Alors, les céphéides, on vient d'en parler. Juste pour les personnes qui voudraient se dire, tiens, est-ce que ça se voit une céphéide? J'en ai noté quand même deux ou trois.
Ah oui, ça peut être intéressant.
Tout à fait. Alors, des exemples de céphéides, on a Almizan ou Eta Aquilae, dans la constellation de l'Aigle. Ouais. Elle varie de la magnitude 3,6 à 4,4. Alors, c'est pas énorme. Il faut quand même être observateur pour s'en rendre vraiment compte. Et sur une période de 7 jours. Alors cette étoile, elle est quand même facile à trouver. L'aigle, ça ressemble un peu à un oiseau avec les ailes un petit peu ouvertes comme ça. Ça se trouve dans une des ailes. Ensuite, on a Mekbuda ou Zeta des Gémeaux. Pareil, elle varie de 3,6 à 4,2 en 10 jours. Alors c'est court, hein, ça permet quand même de pouvoir le faire. Et puis une autre, apparemment ça serait celle la plus évidente à observer, c'est Beta de la dorade qui va de 3,5 à 4,1 en 9 jours. Mais pour nous c'est raté, hein, parce que la dorade, il faut aller un petit peu vers...
Elle est un peu dans l'eau.
Il faut aller un peu dans l'hémisphère sud pour pouvoir l'observer. Voilà, donc on va revenir à ce fameux télescope spatial. Hubble, je te laisse nous donner plus de précision et de son histoire.
Alors, avant de parler d'Hubble, il faut savoir que Hubble, c'est pas le premier télescope qui a été envoyé dans l'espace. Hein. Il y en a eu d'autres. Alors, comme j'ai dit, l'idée date de 1923, elle a été reprise. Et il faut savoir également que dans les années 60, les Soviétiques, à l'époque, étaient largement plus en avance que les Occidentaux, puisqu'ils envoyaient déjà quelques télescopes pour l'observation spatiale, notamment dans le programme Proton. Donc eux, ils arrivaient à maîtriser. Ce qui n'était pas le cas forcément des Américains, qui eux, pour l'instant, cherchaient une solution pour envoyer un télescope dans l'espace. Et donc pour l'envoyer, il faut quand même un lanceur relativement puissant. Alors il y a eu un programme dans les années 50, hein, le programme Vanguard, où il était question d'envoyer des instruments scientifiques dans l'espace. Le problème, c'est que c'était un peu limité en poids, puisque c'était limité à 7 kilos. Alors, faire un télescope spatial à 7 kilos, c'était un petit peu compliqué. Et de toute façon, ça n'aurait pas servi à grand-chose, puisque le programme Vanguard s'est terminé dans un gros boom, puisque la fusée n'a jamais réussi à décoller.
D'accord.
Et le satellite qu'elle emmenait non plus, d'ailleurs.
Mais ça a explosé tout ça
Donc voilà, ça a explosé.
D'accord, ok.
Donc il a fallu attendre un petit peu, un peu plus tard, avec des fusées un peu plus puissantes, la maîtrise des lanceurs. Et comme les lanceurs devenaient de plus en plus gros et de plus en plus puissants, Spitzer est revenu à la charge. Et il a relancé l'idée d'un télescope géant spatial. Mais le problème, c'est que financièrement, ça coûte très cher.
Oui, oui.
Et techniquement, c'est très compliqué. Donc là, il a fallu commencer à chercher un petit peu comment on allait faire, et les financements ne se mettaient pas vraiment en place. En attendant, il lance quand même un programme de petits télescopes, ce qu'on appelle l'Orbiting Astronomical Observatory, le programme OAO, qui a fonctionné. Alors le premier, OAO-1, a été lancé par une fusée Atlas. Il a bien fonctionné quelques jours, c'est-à-dire quelques orbites, et malheureusement, il est tombé en panne d'essence, on va dire.
Oui, c'est un petit peu pas très rentable, on va dire.
Et non.
Il a pu envoyer des images quand même.
Alors, il a pu envoyer quelques images,
oui.
Mais comme il n'avait pas suffisamment d'énergie, il est tombé en panne. Donc,
okay.
C'était un petit peu dommage. Il aura fallu attendre quelques années après pour OAOB, qui lui a explosé au décollage, le pauvre. Donc, il n'est pas monté. Le numéro 2, lui, par contre, va bien fonctionner. Et il va fonctionner pendant 5 ans.
Ah oui.
Alors. Et il va envoyer de très belles images. Et il va pouvoir commencer à faire entrevoir aux États-Unis, aux Américains, ce que va pouvoir donner un grand télescope.
Tu as une idée de diamètre, là tu l'as...
Alors, ceux-là, non, ils étaient un petit peu plus petits, donc ils étaient beaucoup plus légers.
Oui.
Alors, OAO 2 fait à peu près 150 kilos.
Oui.
Donc, c'est du petit diamètre, je ne l'ai plus en tête.
Ouais.
Mais l'OAO 3, lui, sera déjà beaucoup plus lourd, puisqu'il fera 300 kilos que son petit frère.
Ouais.
Et lui, par contre, va pouvoir fonctionner 10 ans.
Oui.
Alors, ce sont des télescopes qui sont faits pour fonctionner tout seuls. Ils ne peuvent pas être réparés, puisque de toute façon, on ne sait pas le faire. Donc, voilà. Il fonctionnera 10 ans, voyons. Mais... dans le même temps, la NASA développe des programmes de lanceurs de plus en plus puissants. On voit arriver le programme Gemini,
oui.
Et notamment la fameuse Saturn
5. Ouais.
Et la Saturn 5. Donc du coup, là, Spitzer et puis ses collègues commencent à rêver d'un télescope géant dans l'espace.
Ouais.
Alors, on va avoir un programme un petit peu particulier, d'ailleurs, qui va être lancé, c'est le Man Orbiting Telescope. Le Man Orbiting Telescope, en fait, c'est un télescope qui est conçu, dans l'idée, pour l'instant, il n'y a pas de réalisation technique, mais dans l'idée, il est conçu pour être envoyé par Saturn V, mais également pour être, je dirais, entre guillemets, habité. Parce que l'idée, c'est de faire partir également des astronautes si possible astronome, pour réaliser les observations avec le télescope sur place. Et on envisage même, pourquoi pas, de le rattacher à une station spatiale.
Qui était déjà en place à l'époque
1960...
Non.
Si. 70, dans les années 68-70, on commence à parler de station spatiale. Oui, donc l'idée est là. Bon, là, le problème, c'est que ça coûte horriblement cher. Et donc les budgets ne sont pas obtenus et le programme, lui, pour l'instant, va au placard.
Oui, puis c'est un peu risqué parce qu'on n'a pas un recul énorme sur le...
Il faut penser à l'avenir, dans une période de conquête. Et donc, une conquête se fait pas sans risque.
Sans risque, oui.
Ah, voilà. Et en 1969, donc, les budgets sont tous coupés parce que le prix d'un télescope, c'est énorme et le public ne voit pas pourquoi on va dépenser des milliards alors qu'on en a besoin ailleurs. Mmh. Alors, on va continuer...
Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je commence à comprendre pourquoi le fameux Hubble, il a...
Voilà, il a... on va arriver en 1970 et avec la relance du programme du Very Large Telescope. Et nous arrivons dans les années 70. Dans les années 70, le projet du Large Space Telescope, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle...
À l'époque, oui.
À l'époque, est pour l'instant mis au placard, faute de financement et de réalisation technique. Et on doit en fait sa résurrection à une astronome américaine, une astrophysicienne, Nancy Roman, qui a une particularité, c'est qu'elle est très têtue. Et donc, elle va se battre, et grâce à son acharnement, elle va obtenir l'adhésion à la fois de l'opinion publique, ce qui n'est pas une mince affaire, compte tenu des financements en jeu, et également des politiques qui, eux, vont pouvoir voter le budget. Et à force d'opiniâtreté, elle arrive à obtenir le relancement du programme. Notamment avec la perspective du nouveau programme qui est lancé par les États-Unis de navettes spatiales.
Ah oui.
Et donc là, ça permettrait de faire un télescope un petit peu plus grand et aussi, on envisage un entretien.
Oui, parce qu'il faut peut-être le préciser, le volume embarqué par la navette spatiale est autrement plus important que pouvait faire Saturn V.
Tout à fait.
Malgré qu'elle soit plus grosse, en fait, il n'y avait que très peu de place.
Il y avait très peu
tout
de place.
Tout à fait au sommet.
Et le poids était limité.
Ouais. Il faut se rappeler du LEM. Hein.
Et donc, ce programme est relancé. La conception technique peut commencer également. Et donc là, les appels d'offres sont lancés. Les laboratoires se mettent au travail. Et l'Europe va également rentrer dans le programme à hauteur de 15% du financement, notamment en fournissant un appareil, une caméra, donc qui va viser des objets très peu lumineux.
Oui.
Et également la fourniture des panneaux solaires pour l'énergie. Donc,
c'est
pas rien. Et ça fait à peu près 15% en échange. Les astronomes européens auront 15% d'utilisation d'observation du futur télescope.
Donc, c'est bien aussi.
Donc, le programme se continue correctement. En 1977, le budget est validé par le Congrès. Donc, ça, c'est une grande avancée. Et ça peut prendre véritablement une vitesse de croisière pour la conception. Alors, la taille du...
Oui, j'allais parler la mensuration de ce télescope.
De Hubble, elle va évoluer, en fait. Elle va évoluer avec quoi ? Avec simplement la taille de la soute de la navette qui va, elle aussi, évoluer en fonction des besoins et notamment, ça on ne le dit pas beaucoup, mais des besoins de... l'armée américaine qui avait besoin de soutes un peu plus larges pour envoyer quelques petits satellites espions dans l'espace en plus très discrètement. Bon, mais apparemment, il ne faut pas le dire, hein, c'est un secret. Mmh. Donc voilà, et la taille du télescope, lui, va varier en fonction de la taille de la soute, bien sûr. Mmh. Donc là, on va revenir sur les chiffres après pour vous donner ça. Et... La conception se lance, les instruments sont distribués, différents instruments, des caméras, des spectromètres pour pouvoir observer des objets très lointains et faire de la recherche. Et il aura un montage un peu particulier puisqu'il sera monté sur le type d'un télescope de Richet-Chrétien,
oui, alors...
donc dédié à l'imagerie.
Ok. Alors, c'est quoi? C'est par rapport à Newton
Alors, par rapport à Newton, c'est, alors, ça ressemblerait pas du tout à Newton. C'est-à-dire qu'on a un grand miroir primaire
oui.
et un miroir secondaire central
ah, oui.
qui renvoie un petit peu, comme dans les casse-grains, l'image au centre du premier
miroir. Oui, donc le miroir, primaire est percé, troué au milieu.
Voilà.
Ouais.
Donc, oui. Et c'est à ce niveau-là, un jeu de miroir également qui va renvoyer les images. Alors, quand on fait de l'observation visuelle ou simplement de l'imagerie simple, on a la caméra qui est au milieu et qui reçoit l'image au point focal. Là, en fait, comme c'est plusieurs instruments qui vont recevoir les images...
Ouais, vous pouvez passer de l'un à l'autre.
Voilà, il y a un jeu de miroir qui est mis en place et qui va envoyer l'image vers les différents appareils qui sont autour du miroir.
Chacun leur tour, en gros, selon l'émission.
La conception... Ouais. Du télescope est faite de façon à ce que chaque instrument puisse être maintenu et entretenu plus tard sans gêner
le
fonctionnement des autres. Donc, c'est une conception un petit peu particulière.
Ouais, ça doit être un casse-tête.
Voilà, c'est un petit casse-tête, mais qui marche, hein, puis ça fait 35 ans que ça fonctionne.
Hein. On imagine la mécanique quand même. Hein.
Voilà, tout à fait.
De et précision.
Il est équipé alors, d'une porte d'entrée, hein, qui va se fermer automatiquement dès que le télescope va être pointé à 20 degrés en direction du Soleil.
Ah oui, pour éviter...
Pour éviter les échauffements qui sont assez désagréables pour les miroirs et puis les appareils. Il est équipé également de 6 gyroscopes.
Oui, ça permet de l'orienter.
Sur ces gyroscopes, en fait, sur les 6, il y en a 3 qui sont nécessaires à la visée et 3 qui sont là en secours.
Oui. Okay.
On y reviendra sur les gyroscopes parce qu'on verra qu'ils ont posé quelques petits soucis également.
Il en reste, j'imagine, au moins 3 qui fonctionnent.
Ah, mais pour l'instant, les 6 fonctionnent. Donc,
allez, donc ça va.
Mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui pose souci parce que le jour où les gyroscopes tombent en panne, il ne peut plus trop pointer. Voilà. Alors, le cœur, en fait, du télescope, ce sont les miroirs.
Oui.
Parce qu'un télescope sans miroir, il est aveugle, il n'en voit rien du tout. Et donc, les miroirs ont nécessité beaucoup, beaucoup d'attention. Le miroir primaire fait quand même 2,40 m de diamètre, qui était énorme, déjà sur Terre. Alors, ça, pour en trouver des 2,40 m, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais 2,40 m. Alors, il a été confié à une firme qui a choisi un polissage mécanique pour lui donner sa forme. Et on verra que ce polissage mécanique a posé un petit souci à la fin, puisque en fait, le miroir a été surpoli.
Oui, mais ce n'était pas une erreur. C'est une erreur de... gens qui l'ont poli qui se sont trompés. C'est ce qu'on leur a donné.
C'est la mécanique.
Ah, c'est la mécanique.
C'est la mécanique, en fait, qui a subi une petite erreur et qui a également poli le miroir de façon un petit peu trop appuyée. Alors, quand je dis un petit peu trop appuyée, c'est le quart de l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire 2 microns.
Oui, mais ça suffit pour
et
que...
Voilà.
Parce qu'il a été myope hein, dans ses débuts,
en
gros.
Il a été myope, on va y revenir rapidement. Mmh. Mais en fait, il aura fallu 2 ans. Deux ans pour réaliser les miroirs et la bagatelle de 451 millions de dollars.
Oui.
Voilà, donc, on y est quand même arrivé. En octobre 1983, le Large Space Telescope devient le télescope Edwin Hubble.
Et voilà.
Voilà, on lui donne le nom de Hubble, et depuis lors, il est connu sous le nom de télescope Hubble. Il est lancé enfin le 25 avril 1990. Alors, on ne va pas passer tous les avatars du lancement, parce que sinon, on y passerait la matinée, et on n'a pas vraiment trop le temps. Et là, quand il est mis en orbite, on se rend compte que le télescope est myope. Il est myope, il voit mal, les images ne sont pas claires, etc.
Et la on tête se rend des compte, gens, là.
Voilà. après des enquêtes, on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur au niveau de sa formation. Et il est décidé d'envoyer une mission de réparation. Alors, on ne va pas réparer, puisque le miroir n'est pas prévu pour être changé, lui. Mmh. Mais par contre, on va l'équiper, on va changer une caméra qui va, elle, modifier, en fait, qui va jouer le rôle de nos lunettes. Quand nous, on est myope, on met des lunettes, et ben on a fait un peu pareil avec...
Donc, on a mis une lentille sur la caméra, en fait, pour corriger
Tout à fait, pour corriger le défaut.
Le défaut.
Et depuis, Hubble nous envoie des... Alors, il faudra quand même envoyer 5 missions d'entretien.
Oui.
Alors, la première était véritablement une mission de réparation, puisque les gyroscopes sont tombés également en panne. Donc, on les a changés, etc. Mais après, les autres missions, c'était des missions d'entretien et de modernisation. des appareils qui ont permis de...
De changement de caméra, j'imagine, voilà, des trucs comme ça.
Changement de caméra, de spectromètre, pour améliorer ses capacités de alors, voir. Les panneaux solaires ont été changés également, puisque les premiers avaient subi des dégradations du fait du choc thermique qu'ils subissaient entre le jour et la nuit.
Alors l'orbite, hein, on a oublié de dire à quelle altitude il
alors,
est.
Actuellement, il est à 600 km à peu près, hein, en gros. Hein,
oui, donc il subit quand même des jours et des nuits. Il n'est pas suffisamment loin de la Terre, voilà, pour être toujours...
Il subit des jours et des nuits. Ouais. Et il y a une amplitude de température de 270 degrés quand même, ce qui n'est pas rien. Et donc ça, ça les a détériorés, il a fallu les changer. Alors, pour terminer, parce qu'il va bientôt falloir terminer, je vais vous donner quand même quelques chiffres sur Hubble pour vous donner un peu la dimension de cet engin.
Oui.
Il fait quand même 13 mètres de long, c'est-à-dire un beau bus, hein, quand même.
Ah oui, oui.
13 mètres de long, 4 mètres 30 de diamètre en tout.
Oui.
C'est déjà quelque chose d'assez conçu.
Voilà.
Le miroir fait 2 mètres 40, mais l'ensemble, puisque les caméras sont autour du miroir, fait 4 mètres 30, 11 tonnes. Donc il fallait véritablement un lanceur très très puissant.
Oui.
Voilà. Alors, le diamètre du 2 mètres 40, je l'ai dit, il est capable de discerner une pièce de 1 euro à 20 km.
Oui, d'accord.
Ah, donc okay. C'est pas mal au niveau résolution. C'est même très bien. Il a à peu près 400 000 pièces différentes à bord.
Oui,
pour les bricoleurs, hein, si ça vous dit de...
C'est un bon puzzle.
Voilà, faire un petit puzzle, il n'y a pas de souci.
Oui.
Voilà. Donc, il est stabilisé pour l'instant à environ 600 km. Et 16 fois par jour, on en parlait tout à l'heure de la différence jour-nuit, 16 fois par jour.
Ah oui, c'est les 16 voilà. De lever et coucher de soleil, un petit peu comme l'ISS.
Et donc,
quoi.
C'est pour ça qu'il est équipé de revêtements spéciaux pour le protéger du soleil et de boucliers très particuliers qui rabaissent alors... Je l'ai dit, l'amplitude, c'est 270 degrés environ. Et il est revêtu de plaques isothermes chauffantes qui réduisent cette différence de température à 1 degré.
Ah oui.
On passe de 270 à 1 degré. Donc, vous voyez, technologiquement, c'est quand même pas rien.
Ah oui, si on avait ça sur nos
voilà maisons. Un petit peu ce qu'on peut dire rapidement. Alors, on pourrait parler de Hubble pendant des jours.
On va empiéter sur les éphémérides, tant pis, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. On renverra à la parenthèse étoilée d'Alain, pour les gens qui veulent avoir des informations sur les éphémérides. Moi, ce que j'aimerais juste, pour finir quand même, c'est rappeler les fameuses découvertes et les fameuses images. Ah. On a parlé des piliers de la création, mais il faudrait parler de cette espèce de fenêtre qui a permis de voir qu'il y avait des milliers et milliers de galaxies, cette espèce de fenêtre sur l'univers qui était assez hallucinante à l'époque.
Voilà, bon alors là on a la fameuse tête de cheval. Hein.
Et puis, alors je vois tes feuilles, là je vois que tu... Alors, évidemment les auditeurs peuvent pas le voir, mais on voit ces magnifiques images
mais
qui ont été faites.
Je pense que vous allez sur internet,
vous tapez, et
vous trouvez toutes les images de Hubble puisqu'elles ont été rendues publiques.
Hein,
Alors que ce soit sur le site de la NASA ou sur le site de l'ESA.
Parce qu'on est dans le domaine public, faut le dire.
Maintenant, voilà.
Oui, puisque c'est du financement public.
Tout à fait.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors aux États-Unis,
c'est pas tout à fait pareil.
C'est un petit peu particulier, mais
c'est
bon,
pas pareil,
en France, avec l'ESA, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Et puis, la galaxie de Rubin, qui elle est magnifique, là je l'ai sous les yeux.
La fameuse tête de cheval, pouponnière d'étoiles.
La galaxie des antennes, etc. Et on a effectivement des découvertes qui ont été faites grâce à Hubble, qui ont véritablement révolutionné l'astrophysique, la cosmologie, la découverte d'exoplanètes. Hors galaxie également, donc ce qui a permis quand même des avancées énormes au niveau de l'astronomie en général.
Quoi. Oui, c'était vraiment une étape énorme dans l'observation.
Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas terminer sans parler de son grand frère, James Webb, qui a été lancé il y a quelques années. Alors, il ne vient pas le remplacer. Mais il vient le compléter, en fait, puisque les deux servent encore à faire de la science. James Webb, bien sûr, il y a déjà eu une émission de fête dessus, est équipé d'instruments beaucoup plus modernes et va aller chercher des observations dans des lumières, dans des longueurs d'onde.
Un peu différentes.
Un petit peu différentes et pour l'instant inexploitées parce que la technologie ne le permettait pas à l'époque.
Et oui, tout à fait. Mais là, je crois qu'on en a parlé déjà ici
tout à fait.
De ce fameux télescope James Webb que vous pouvez donc retrouver... en podcast.
Voilà. Et donc, bon, bah,
On a fait le tour.
On a fait le tour. Pour ce qui est des éphémérides, on va renvoyer à la...
Oui, on va renvoyer pour les personnes qui sont intéressées par les éphémérides. Vous pouvez aller faire un petit tour sur la parenthèse étoilée. C'est un podcast que fait Alain. Donc, Alain qui vient souvent ici, justement, animer l'émission. Cette émission, donc, qui touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés sur ce sujet passionnant. Merci à toi, Eric.
Merci aussi.
Voilà. Et puis, écoutez, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures astronomiques. Merci. Au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.